Voilà, nous retrouvons l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Scheck, pour 2 minutes de conclusion. Un mot sur les efforts diplomatiques en cours. Jusqu'ici, la diplomatie n'a servi à pas grand-chose. Il y a eu Madrid, il y a eu Annapolis, on ne va pas refaire toute l'histoire. Le président Sarkozy propose une conférence dans les prochaines semaines. Est-ce que la diplomatie sert à quelque chose dans la région du Proche-Orient?
Bien sûr qu'elle sert. Elle servira à faire la paix. Je ne sais pas s'il faut une conférence ou pas une conférence. Il y a un canal qui fonctionne. Mais évidemment que la diplomatie, c'est la priorité. Personne n'a voulu, vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur que les Israéliens sont partis pour retrouver une situation de guerre à Gaza. J'ai écouté le Premier ministre israélien hier, qui avait, parmi les messages politiques et diplomatiques, aussi un message très fort d'empathie et de compassion pour les civils de Gaza. Parce qu'ils ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont pas eux nos ennemis, ce sont les gens du Hamas qui, de manière très irresponsable, très méchante par rapport à leurs propres frères et sœurs, s'incrustent dans cette société civile et la font payer le prix d'une guerre qu'ils ont choisi de mener.
Monsieur l'ambassadeur, vous perdez en George Bush un appui, un allié inconditionnel. Est-ce que vous êtes un peu inquiet, en tout cas suspicieux peut-être, de ce que vous peut apporter le président Obama?
Pas du tout. Pas du tout. Je pense que Obama, c'est une très bonne nouvelle pour le monde. Je suis certain qu'il sera un bon président pour les États-Unis et sera un bon président pour le Proche-Orient.
Une nouvelle façon de voir les rapports de force peut-être au Proche-Orient.
Une autre façon de voir le monde, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne ou meilleure que l'autre. C'est une autre façon. Il sera accueilli en Israël comme l'ami que nous savons qu'il est, et je sais qu'il a l'attachement comme nous. Un avenir de paix dans cette région.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander maintenant de céder votre place en direct à Leila Shahid, qui va donc prendre votre place. Merci à tous les deux. Leila Shahid, je vous en prie.
Dommage qu'on
ne
soit pas tous les deux assis.
Vous avez
la place maintenant de parler librement pendant 20 minutes.
Toujours librement sur TV5.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Leila Shahid, donc, je vous présente à nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas. Il en reste quelques-uns. Donc, vous êtes délégué général de Palestine en Belgique et auprès de l'Union européenne. Alors, près de 1300 Palestiniens sont morts à Gaza ces 3 dernières semaines. On parle ce soir d'espoir, de paix, de cesser le feu, de retrait. En attendant, qui est responsable de ce qui s'est passé? Israël, le Hamas ou les deux?
Je crois vraiment tout le monde. Avant tout l'occupation, et je dirais dans les responsables aussi la communauté internationale. Ça veut dire les Arabes, les Européens, les Nations Unies, tous ceux qui, depuis 42 ans, votent des résolutions et ne les mettent pas en œuvre. Le Hamas n'est pas à l'origine du problème, il est une conséquence du problème. Et donc, il faudrait quand même dire aux téléspectateurs et aux auditeurs et aux lecteurs de vos journaux que l'histoire a commencé il y a 42 ans. Elle n'a pas commencé, malheureusement, il y a juste quelques années, lorsque le Hamas a commencé à tirer des roquettes. Et je crois qu'il y a une vraie responsabilité internationale. Et c'est pour ça que je crois que le président Sarkozy a du mérite de se mobiliser, parce que je pense que le monde ne s'est pas mobilisé. Et je pense que le monde a sous-estimé, rappelez-vous, le président Bush. C'est très bien qu'il s'en aille demain, parce que pendant 8 ans, ah non, sûrement pas, je pense que ni moi ni tous les gens qui aiment la paix dans le monde, parce qu'il y a 8 ans, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, et je vous rappelle, avant les terribles attentats terroristes de Ben Laden, il disait que le conflit israélo-palestinien n'était pas prioritaire, qu'il y avait d'autres choses plus importantes. Et nous en payons aujourd'hui les conséquences.
Alors, Leila Shahid, au début de la guerre, le président Mahmoud Abbas a déclaré finalement que c'est le Hamas qui avait favorisé le massacre suivi.
Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, essayé d'alerter le Hamas que le refus du dialogue national, rappelez-vous que le Hamas avait participé à des négociations avec l'Égypte pour un dialogue national, le refus de venir le 10 novembre au dialogue national qu'ils avaient accepté en principe, son refus de reconduire la trêve avec Israël,
le 19 décembre.
Allait réellement mettre en danger la situation à Gaza.
Bon, certains ont dit que c'était une erreur politique. Vous partagez cet avis?
Moi, je pense que le sentiment de la population, c'est que cette guerre, elle est contre le peuple palestinien. Et tout le peuple palestinien, pas seulement celui qui est à Gaza. Je dirais que même c'est une guerre contre la cause palestinienne. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est, et vous avez vu quel carnage ça a été, je crois que le plus important, c'est d'y mettre fin. J'espère que le cessez-le-feu va tenir de tous les côtés, mais je pense surtout qu'il faut revenir à la réalité des choses, ça veut dire à une dynamique politique. On a l'impression que ce problème, c'est un problème de tunnel, de contrebande, de roquettes, mais c'est quand même leurrer les spectateurs, les lecteurs et les téléspectateurs et les auditeurs de leur dire, parce que sinon vous les ennuyez, ils en auront le bol de voir et l'ambassadeur d'Israël et le représentant de la Palestine sans qu'on leur dise la vérité. Il y a un conflit qui dure depuis 42 ans. Dans ce conflit, il y a des protagonistes qui ont différentes responsabilités, mais le monde a failli à sa propre responsabilité de faire appliquer le droit, c'est tout. Ce n'est pas une guerre de religion. Il faudrait que les jeunes en Europe se calment et qu'ils cessent de prendre pour cible les synagogues et les citoyens juifs d'Europe, parce que c'est très grave. C'est grave avant tout pour la Palestine.
Vous avez toujours tenu le discours, d'ailleurs.
C'est parce que vous avez nourri aussi, d'une certaine manière, lorsqu'après chaque incident, on reçoit les imams et les rabbins et les cardinaux, on donne l'impression que c'est un conflit
malgré
religieux.
Tout, oui.
C'est un conflit
malgré
politique
tout, oui.
qui a des Chahide, solutions.
Et la Chahide, vous êtes membre du Fatah, vous êtes une laïque.
Oui.
Pour l'instant, on a l'impression que ce sont les islamistes du Hamas qui mènent le jeu. Est-ce qu'ils sortent renforcés ou non de ce qui vient de se passer à Gaza ?
Terriblement, terriblement. Pas seulement à Gaza. Les islamistes sortent renforcés partout dans le monde. Parce qu'on est en train de transformer le conflit en un conflit de religion. Dites-moi, lorsque l'armée israélienne bombarde 12 mosquées, dans une des mosquées, il y a au moins 11 personnes qui prient dans la mosquée, qui s'écroulent, tuées sous les décombres de la mosquée. Comment voulez-vous que des musulmans pratiquants dans le monde, de l'Asie jusqu'à l'Amérique latine, ne soient pas émus ? J'ai l'impression qu'il y a une volonté au sein du pouvoir, dont certains, je ne dirais pas tous, mais certains au sein du pouvoir israélien, qui ont tellement assimilé les théories de M. Bush, de la guerre de civilisation et du clash du bien et du mal, qui ne sont pas mécontents de redonner, parce qu'on avait l'impression qu'on était en train de perdre ce discours du clash de civilisation, il revient avec
les modérés. Les modérés ont du mal à se faire entendre dans les deux camps, alors.
Non. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de symétrie dans les deux camps. Premièrement, je crois qu'en Palestine, les islamistes se sont renforcés parce que nous, les laïcs, qui avons promis depuis 1993 la fin de l'occupation, le début de la mise en place d'un État. Rappelez-vous, Oslo disait un État en 1999, nous sommes en 2009 et nous sommes plus occupés que jamais. Nous avons en plus de l'occupation le mur qui va faire 700 km, on a les colonies qui ont augmenté après Oslo, qui n'ont pas diminué, on a 600 checkpoints qu'on n'avait pas, les checkpoints étant des barrages qui empêchent les gens de circuler. Donc, pourquoi voulez-vous que la population ne nous sanctionne pas? Elle nous dit, vous nous promettez château en Espagne depuis 15 ans et on ne voit rien, essayons les autres. Mais ce n'est pas par fondamentalisme islamique, c'est par frustration du manque de résultats de ce qu'ils appellent notre foi dans la communauté internationale, notre foi dans le droit international que personne ne veut appliquer. Vous savez ce qu'ils nous disent? Vous êtes naïfs, vous continuez à croire dans vos amis européens et dans les Nations Unies et finalement c'est le rapport de force qui impose la réalité.
Concrètement, Leïla Chahide, est-il possible, faut-il, et est-il possible d'imaginer une réconciliation Hamas-Fatah?
Il le faut, il le faut.
Moi, alors, je pense comment, que comment est-ce que vous avez
chacun doit faire. Vous savez, je crois que dans un mouvement de libération qui a un tel âge, ça fait 60 ans quand même que nous essayons de porter le flambeau d'une nation qui a le droit de vivre libre. Je trouve que nous avons fait preuve d'une immense maturité lorsque nous avons, nous, proposé à nos ennemis de partager cette terre. Je vous rappelle que l'État que nous revendiquons ne fera finalement que 22% sur toute la terre de Palestine historique. C'est une preuve de très grande maturité. On ne l'a pas assez reconnu. Je crois que nous avons fait une erreur le jour où nous avons accepté, voulu des élections. Nous avons eu deux dans notre histoire. En 1996, elles ont très bien marché. Le Hamas avait décidé de les boycotter à l'époque. On les a refait après la mort du président Arafat en 2006. On a accepté, on a invité le Hamas à y participer. Vous, Européens, vous avez été les moniteurs. Et lorsque le résultat a été publié et qu'ils avaient gagné 42%, donc une majorité réelle, on a refusé le résultat.
C'est quoi l'erreur d'accepter que le
Hamas... De refuser le résultat. Il n'y a pas deux poids, deux mesures au système électoral. Ou bien on le fait et on l'assume, ou on ne le fait pas. Je pense que c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'était Une fois qu'ils ont fait un gouvernement seul, on les a boycottés, puisqu'ils étaient, comme disait l'ambassadeur d'Israël, avec toutes les revendications, soi-disant une organisation terroriste, tous les gens qui ont lutté pour leur libération, avant tout le mouvement juif, étaient appelés terroristes par les Britanniques lui-même. Mais surtout, après le premier gouvernement d'Ismaïl Haniyeh, nous avons fait un gouvernement de coalition nationale, que l'Union européenne a salué, que M. Solana est venu voir jusqu'en Arabie saoudite. Et aussi, on l'a boycotté.
D'accord.
Et je pense que ces deux choses sont des erreurs de notre part.
Aujourd'hui,
il y a les erreurs de la part d'Israël aussi.
Est-ce que le mouvement palestinien ne sort pas plus divisé que jamais de cette crise? Le Hamas renforcé, le Fatah affaibli, y compris en Cisjordanie et parmi la jeune génération.
Je vous ai dit, le Fatah est affaibli avant tout parce qu'un an de négociations depuis Annapolis, ça veut dire novembre dernier, des promesses du président Bush qu'il y a eu 45 pays qui sont venus à Annapolis vont donner la vision de deux États fin 2008, rien. Monsieur l'ambassadeur a beau dire qu'en secret, tout le monde est très content. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu une ligne d'écrite sur aucune des négociations. Et pourtant, on a fait preuve de très bonne volonté. 11 commissions ont travaillé, mais ils sont sortis avec aucun résultat. Et entre-temps, les colonies ont augmenté, le mur a continué, les barrages sont restés, les arrestations ont continué.
D'accord, que doit faire le Fatah pour retrouver le crédit auprès de la population palestinienne?
Le seul moyen pour que le Fatah ait un crédit, c'est premièrement que ce qu'il défend, ça veut dire la négociation comme méthode, ça veut dire le partenariat avec une Europe qui est trop timorée et trop lâche. Je mesure mes mots pour avoir une position unie, parce qu'elle se cache derrière toujours la possibilité que ce soit mal compris, que Israël est un État qu'on ne peut pas traiter comme... Pourquoi on ne peut pas traiter?
Vous trouvez qu'elle est plus active, l'Europe, là, avec le sommet de Sharm el-Sheikh aujourd'hui?
Oui, mais attendons voir les résultats.
Et vous pensez,
Une Amérique qui est nouvelle, on va voir M. Obama, le seul moyen pour que le Fatah ait de la crédibilité, je vous dis ce que les gens me disent à moi, puisque j'en fais partie, c'est qu'on montre qu'on est capable de leur apporter quelque chose de ce qu'on leur a promis.
Et
ça veut dire la fin de l'occupation, du travail, le lever du bouclage de Gaza. Tout le monde parle des bonnes réalisations du cessez-le-feu. Mais rappelez-vous, la proposition du Conseil de sécurité et de l'initiative franco-égyptienne, c'est trois choses. Elles vont ensemble. Le cessez-le-feu des deux côtés, mais avant tout aussi la levée du bouclage, qui est la raison du déclenchement des hostilités. Et troisièmement, le retrait total de l'armée israélienne, une force de protection pour ces Palestiniens qui, depuis 42 ans, sont littéralement livrés à l'armée
israélienne. Vous pensez que l'Union européenne, réellement, a les moyens d'infléchir la position israélienne?
Bien sûr, totalement. Je trouve qu'il y a ce faux semblant de dire que la pauvre Europe, elle n'est pas entendue. Ce n'est pas vrai. Écoutez, laissez-moi vous dire ce que je sens depuis trois ans que je travaille dans les coulisses de l'Union européenne. L'Europe est le premier partenaire économique, commercial, technologique. Pourquoi est-ce qu'Israël a tellement voulu le upgrading, ça veut dire le rehaussement de son statut comme partenaire au sein de l'Union européenne? Parce qu'elle sait que son vrai partenaire à tous les niveaux de la vie économique, sociale, technologique et de recherche, et même je dirais sécuritaire, c'est l'Union européenne, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis donnent de l'argent à Israël, mais ils instrumentalisent aussi Israël. Vous avez une relation historique
importante. Mais les États-Unis assurent la sécurité d'Israël.
Comment?
Les États-Unis assurent la sécurité.
Vous trouvez? Parce que vous avez vu, les soldats américains se mobiliser lorsqu'Israël a été en danger.
Il y a d'autres manières
Ça, c'est au niveau du Barata. Ce qui assure à Israël réellement sa sécurité, c'est la paix. Si Israël levait sa tête de la terre comme une autruche et regardait la réalité. La seule chose qui peut assurer, et c'est légitime qu'elle veuille assurer sa sécurité, c'est un État palestinien, c'est la paix avec tous ses voisins. Vous savez ce qui s'est passé hier? À Qatar, la plupart des pays qui ont accepté le plan arabe d'initiative, qui étaient tous les 22 pays arabes, les 21 plus nous, ont dit nous sommes prêts à toute relation diplomatique, commerciale, culturelle, ce que vous voulez, mais un État palestinien. Déjà, hier, le Syrien a dit je ne veux plus, le Qatari a dit je ne veux plus, la Mauritanie a rompu ses relations, parce que personne ne peut cautionner.
Vous parlez des pays arabes.
Oui.
Est-ce que vous trouvez que les pays arabes ils soutiennent suffisamment l'autorité palestinienne?
Pas assez. Regardez la preuve, on a deux sommets arabes, un à Qatar et un au Koweït. C'est la preuve que les Arabes n'arrivent pas même à accorder leur violon. Mais pourquoi n'arrivent-ils pas? Parce que je crois qu'il y a eu une démission d'une communauté internationale qui est partie va-t-en-guerre avec le président Bush dans la guerre antiterroriste. Et pays, cette guerre, elle a compris. Augmenté pays le terrorisme, elle ne l'a pas diminué.
Pays arabe compris.
Mais bien sûr, mettez-vous à leur place. On les a culpabilisés en leur disant « Tous les acteurs de Ben Laden sont saoudiens, donc vous êtes dans le camp du mal jusqu'à ce que vous prouviez que vous êtes dans le camp du bien. » Et donc, je pense que c'est l'échec total de la politique américaine, inclus dans les pays arabes pro-américains.
Est-ce que vous avez le sentiment, comme on l'a vu à Doha d'ailleurs, que la cause palestinienne est instrumentalisée réellement maintenant par les puissances régionales, mais de plus en plus, est-ce que le conflit finalement échappe aux Palestiniens et que d'autres enjeux sont tellement...
Ce n'est pas nouveau, malheureusement. Rappelez-vous, depuis Nasser, vous savez qui a fondé l'OLP. C'est Nasser qui a fondé l'OLP en 64 dans l'espoir qu'il pourra parler au nom des Palestiniens. Puis c'était le roi de Jordanie. Puis c'était la Syrie qui a voulu, elle n'a pas pu, donc elle a puni le président Arafat. La cause palestinienne est la cause principale des Arabes. C'est normal que tout le monde ait envie de parler aussi en son nom. Mais rassurez-vous, les Palestiniens sont devenus assez grands pour parler en leur nom. Seulement face à une Israël qui est la quatrième puissance militaire du monde, qui est votre partenaire privilégié, à qui vous avez donné un statut aussi évident que nous ne comptons pas. Donc c'est essentiel qu'on rétablisse. Je pense que même c'est essentiel pour vous, pas seulement pour nous. Comment voulez-vous arrêter la colère dans les rues d'Europe, de Bruxelles, de Paris et de Londres? Il faut que vous disiez que le droit, c'est pas du pipeau, que le droit... C'est le droit de tous. Le droit des Israéliens, mais aujourd'hui, c'est le droit des Palestiniens qu'on ne respecte pas. Et c'est à vous de mettre en œuvre le droit, par tous les moyens.
Est-ce que c'est pas à vous de faire votre autocritique aujourd'hui?
Mais si, mais j'ai dit la
mon autocritique. Finalement, les gens, les Palestiniens, se portent vers le Hamas parce que nous n'arrivons pas à obtenir quelque chose de tangible de la part d'Israël.
Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne m'avez pas écouté.
Si, je vous ai écouté.
Vous avez beaucoup de travail ce soir.
Non.
Et c'est exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. J'ai dit, les gens nous ont abandonnés, nous ont critiqués parce qu'on leur a promis la fin de l'occupation et le début d'un État palestinien et qu'après 15 ans de négociations, on n'a rien apporté. Je pense que nous sommes responsables d'une partie de nos erreurs. Mais aussi, le monde international est responsable de l'impunité qu'elle a accordée à Israël. Vous auriez jugé Israël au moment d'autres massacres. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la seule commission d'enquête sur un massacre a eu lieu en Israël. Jamais l'ONU ou le monde occidental n'a jugé les crimes israéliens. Vous n'avez jamais accompagné vos rapports, vous, Européens, avec Israël, avec des conditions qui sont écrites sur le papier. Les traités d'association disent, si Israël ne met pas en œuvre le processus de paix commencé à Oslo, les relations économiques et commerciales ne devraient pas continuer. Vous venez de récompenser Israël en rehaussant son statut, sans même lui rappeler que dans tout ce processus d'Annapolis depuis un an, elle n'a rien donné à celui qui est la victime de l'occupation.
Juste un mot sur l'Europe.
Les responsabilités sont partagées de tous les côtés.
J'aurais bien aimé savoir pourquoi M. Mahmoud Abbas n'est pas venu chercher le soutien des Européens ces derniers temps. Il est allé aux États-Unis, il est allé rencontrer George Bush encore en décembre.
Il a été aux États-Unis avant Gaza. Non, il a été aux États-Unis
avant Gaza. Absolument.
Oui, il a été.
Le 19 décembre.
Il a été premièrement au Conseil de sécurité, qui est l'adresse nécessaire, ça veut dire là où la paix se fait. Et c'est lui qui a obtenu, grâce au soutien de la présidence française du Conseil de sécurité et de l'Égypte et de tous les ministres arabes présents à New York, la résolution du Conseil. Elle est très importante parce que pour une fois, les Américains ne se sont pas opposés par un veto. Monsieur Olmert prétend que c'est grâce à lui qu'il y a eu une abstention et que ce devait être un vote en faveur. L'histoire jugera. Deuxièmement, il a été, comme vous l'êtes en train de le dire, il a été essayé d'unifier les Arabes. Parce que chaque fois que les Arabes se divisent, c'est les Palestiniens qui payent la facture. C'est sa priorité. Mais avec les Européens, il est avec le président Sarkozy aujourd'hui, avec M. Zapatero, avec M. Berlusconi, avec Mme Merkel. Il est avec tous les Européens. Et je pense que si les Européens sont sérieux, lorsqu'ils disent qu'on est leur partenaire, le partenaire doit avoir droit au même droit et au même devoir. Israël est votre partenaire, elle viole depuis 42 ans toutes vos règles, toutes vos valeurs, et vous n'osez jamais la remettre devant ses responsabilités, comme vous le faites lorsque c'est le Maroc ou la Tunisie ou la Syrie qui violent les droits de l'homme, le droit des libertés civiles dans leur pays. Mais je n'ai jamais vu une sanction, une pression, une critique sérieuse contre Israël. Eh bien, je pense que nous payons aussi la facture.
De quel côté de cette vient l'espoir, madame,
il faut
maintenant
le dire, impunité.
Ce soir, de quel côté vient l'espoir? Vous tournez vers Washington, vous vous tournez vers Obama?
L'espoir, c'est que les Palestiniens n'ont pas été, même s'ils ont payé un prix terrible, les civils surtout, mais ils n'ont pas été écrasés. L'aventure militaire criminelle de l'armée israélienne est un échec. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a encore tiré des roquettes sur Israël. Donc, toutes les versions qui disaient que cette opération allait mettre fin au tir des roquettes n'a pas réussi. Ils n'ont pas écrasé le Hamas, puisqu'en tout cas, il y a eu deux dirigeants du Hamas tués, mais surtout des civils tués. Troisièmement, les Palestiniens ont tous été solidaires dans toutes les villes de Palestine, mais aussi dans le monde entier. Et je pense que la solidarité des manifestants à Paris et ailleurs prouve la solidarité avec la Palestine. L'espoir, c'est que nous mettons fin à un règne d'un président américain qui a apporté beaucoup de guerres. Il a soi-disant inventé une nouvelle forme de guerre préventive. Ça a nourri le terrorisme dans le monde. Nous avons un nouveau président qui veut travailler avec l'Europe. Si l'Europe arrive à parler d'une seule voix, parce qu'un de nos problèmes,
Obama,
c'est qu'elle ne parle pas d'une seule voix.
Pourquoi Obama aurait plus de chances d'atout dans
parce
son
qu'il
jeu
est contre
pour réussir
l'unilatéralisme. Mmh. J'ai entendu l'ambassadeur d'Israël dire « Mais regardez, on a quitté Gaza et regardez ce qui s'est passé. » Eh bien, parce qu'Israël a quitté Gaza, je pense que c'est vous qui lui avez dit, de manière unilatérale, qu'elle avait le choix de le faire avec son partenaire Mahmoud Abbas, dont elle vante les mérites, et elle a préféré partir et laisser le chaos, lequel chaos était occupé par le Hamas. C'était du temps de Ariel Sharon. Mais aujourd'hui, Obama dit, je ne veux plus de politique unilatérale, je pense que le monde a besoin d'une politique multilatérale pour la paix dans le monde, et il dit, mes premiers partenaires, c'est les Européens, mais aussi c'est les pays arabes, mais aussi c'est le monde musulman. Il dit même qu'avec l'Iran, il va parler.
Et quelle pression il doit faire sur Israël? Les premières pressions, les plus importantes, les plus utiles.
Le plus important, c'est qu'on revienne, pas seulement à cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ouverture des points de passage et retrait total de l'armée israélienne et envoi de forces de protection internationale pour les territoires palestiniens, Gaza, mais aussi sur Jordanie.
Y compris pour la frontière avec l'Égypte.
S'ils ne veulent pas être du côté égyptien, du côté palestinien, nous sommes d'accord. Mais il faut que le monde international considère qu'il n'a aucun intérêt à séparer Gaza et Cisjordanie. Que ça, c'est une unité avec Jérusalem-Est. Que les Palestiniens ont déjà fait un énorme pas vers les Israéliens en disant qu'ils veulent vivre à côté d'eux dans un pays qui ne fait pas le quart du territoire historique. Je pense que c'est une chance. Mais vous n'avez pas aussi assumé de nous accompagner. Vous avez été très généreux sur le plan financier. Toujours, je parle des Européens, ça fait partie de ma fonction, c'est pas vous personnellement, mais je pense que vos lecteurs et téléspectateurs le réalisent. L'Europe a une chance historique, elle dit qu'elle veut une union pour la Méditerranée. Pensez-vous vraiment qu'on peut faire cette Méditerranée qui est comme ce petit rond, avec un conflit aussi grave à l'est de la Méditerranée? Comment est-ce que ce magnifique projet, c'est un très beau projet, c'est un lieu unique au monde par sa civilisation, par son histoire, et je pense que les sociétés civiles sont prêtes à coexister. Les Palestiniens, mais aussi les Arabes, sont prêts à coexister avec un Israël qui veut la paix.
Il nous reste une minute et demie.
Barack Obama va être investi dans deux jours. D'après certaines informations, la nouvelle secrétaire d'État Hillary Clinton pourrait se rendre assez rapidement dans la région. Est-ce qu'à la différence de ce que faisait George Bush, vous pensez que pour le président Obama, le dossier du Proche-Orient va être un dossier prioritaire de sa politique étrangère?
C'est intéressant. Beaucoup de gens nous ont dit pas du tout parce qu'il a maintenant la crise financière et il faut qu'il soit isolationniste. Alors, vous voyez comment la réalité
est. Clinton qui est plutôt proche des Israéliens.
La réalité politique israélo-palestinienne est tellement forte, elle s'impose par elle-même. Personne ne s'attendait à ce qui s'est bien passé. Même pas Israël qui pensait qu'elle allait finir le travail en trois jours. Donc cette question est tellement importante, elle est tellement profonde dans cette région du monde qu'elle s'impose. Il va être obligé de traiter en premier, qu'il le veuille ou pas, et je pense qu'il l'a déjà dit.
Le mandat d'Abu Abbas est arrivé à échéance. Est-ce qu'il y a encore une crédibilité? Est-ce qu'il est très fragile?
La crédibilité de Mahmoud Abbas ne vient pas des mandats ni des dates. Les élections palestiniennes, il les veut, il est prêt à les faire demain. Si on a un dialogue national, il est important, il est évident qu'on ne peut pas faire d'élection.
Donc, tant qu'il n'y a pas de dialogue national avec
Hamas,
pas d'élection.
Mais bien sûr, on va le faire seulement en Cisjordanie, c'est impossible. Donc, nous sommes prêts à faire, il faut faire des élections. Pas seulement présidentielles, mais législatives et municipales. C'est le seul moyen. Premièrement, il faut une assurance que vous respecterez le résultat. et que nous aussi on le respectera. Et deuxièmement, qu'elle se fasse dans une situation de calme, au moins qu'il n'y a plus de tirs, et que surtout l'armée israélienne se retire, même des villes où on doit voter, parce que la Cisjordanie est aussi occupée que Gaza aujourd'hui.
Merci Leïla Chaïd, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur TV5 Monde, RFI, Le Monde. Merci à tous les deux et merci à vous surtout de nous avoir écoutés, regardés, et à la semaine prochaine. Au revoir.
Rendez-vous sur RFI.
En sol majeur.
En sol majeur.
En sol majeur.
Savez-vous planter des choux
à la mode de genoux?
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous?
Quand on vous demande
d'où êtes-vous,
que répondez-vous?
Qui savez-vous de vos ancêtres?
Où voudriez-vous mourir?
Dans quelle langue bercez-vous votre enfant?
Dans quelle langue écrivez-vous
l'amour?
L'amour.
En sol majeur. Du lundi au vendredi, à partir de 15h10 TU.
RFI.
C'est tard dans la nuit, sur la banquette d'un taxi. Dehors, un lampadaire s'est rallumé. Ils ont fait feu d'éternité. Sur le toit de la voiture, deux néons lumineux semblaient briller que pour eux. Comme une petite auréole dans le noir, le taxi filait vers la gloire.
Jadis en duo s'endorment maintenant.